Vous écoutez, on lit pour vous.
Appel à transformer la clinique médicale Angus en coop. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 17 février 2025 dans Le Devoir. La Fédération québécoise des coopératives de santé, FQCS, appelle élus, médecins et citoyens à se mobiliser pour transformer en coop la clinique médicale Angus qui a été mise en vente a appris Le Devoir. Une transition vers ce modèle à but non lucratif assurerait la pérennité de l'endroit, estime le regroupement. La clinique de l'arrondissement montréalais de Rosemont-la-Petite-Patrie est l'une des plus grandes du Québec. Avec ses 36 omnipraticiens et 64 médecins spécialistes, elle prend en charge 30 000 personnes. À cela s'ajoutent environ 20 000 visites de patients non inscrits chaque année. Les soins qui y sont offerts sont remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ. En novembre 2024, la presse rapportait que la clinique avait été mise en vente par son propriétaire, l'entreprise Toutello, en raison des coûts d'exploitation devenus trop élevés. Cette situation n'est pas sans provoquer, à juste titre, de l'inquiétude et de l'anxiété chez les patients et le personnel de l'endroit, note François Allaire, directeur de la FQCS, dans une lettre ouverte transmise au Devoir. Afin d'assurer un avenir stable à la clinique, il est d'avis qu'elle doit devenir une coopérative de santé. Le but d'une coop n'est pas de faire des profits, mais plutôt d'offrir des services de qualité, affirme-t-il. Il existe près de 40 coopératives de santé au Québec à l'heure actuelle. En tout, elles offrent des soins à environ 300 000 patients. Pour devenir membre d'une coop, il faut acheter une part, dont le prix varie normalement entre 30 et 50 $, puis apporter une contribution financière annuelle d'environ 75 $. Ces sommes sont injectées dans l'administration et les ressources humaines de la clinique, contribuant ainsi à son fonctionnement. Les médecins dans les coops de santé ont donc moins de paperasse à remplir et peuvent se consacrer davantage à leurs patients, soutient M. Allaire. Il n'est pas nécessaire d'être membre d'une coop de santé pour y prendre rendez-vous, précise-t-il. Le fait de cotiser à une coopérative ne donne pas d'accès privilégié aux soins. Mais les membres peuvent toutefois avoir leur voix au chapitre en siégeant au conseil d'administration où l'on statue sur les grandes orientations d'une clinique. Appelé à réagir, Toutello indique ne pas avoir de préférence en matière d'acquéreur. S'il y en a qui arrivent avec un beau projet de coopérative, c'est certain qu'on va l'évaluer, affirme Benoît Brunel, président du conseil d'administration de la compagnie. M. Brunel précise que la clinique n'est pas à risque de fermeture. Ce qui se passe, c'est que Toutello a décidé de sortir de ce secteur d'activité. C'est donc un choix stratégique de l'entreprise. Il assure d'ailleurs qu'un acheteur finira par se manifester. Nous continuons d'opérer l'endroit d'ici là. Une avenue prometteuse. Le modèle coopératif serait une avenue prometteuse pour la clinique, estime le député solidaire Vincent Marissal, qui représente Rosemont à l'Assemblée nationale. Nous devons faire une bonne analyse de ce modèle, dit-il. Du côté fédéral, l'élu néo-démocrate de Rosemont-la-Petite-Patrie, Alexandre Boulris, se dit également favorable à la proposition. Ce modèle inclut une participation accrue des professionnels de la santé dans la gestion et les prises de décision de la clinique. Les coopératives sont plus durables dans le temps et davantage ancrées au sein des communautés. Pour transformer ce centre en coop, la première étape serait d'avoir des professionnels de la santé travaillant à la clinique qui sont intéressés par le projet, explique François Allaire. Ils pourraient ensuite sonder leurs patients au sujet de ce modèle. Selon des études qu'on a déjà faites ailleurs, c'est à peu près 30% des patients qu'on peut convertir en membres. Puis, afin d'obtenir de l'aide financière, il faudrait aller chercher l'appui de la Ville de Montréal et de partenaires d'économie sociale, affirme M. Allaire. Une offre pourrait par après être faite à l'entreprise qui détient actuellement la clinique. Joint par Le Devoir, le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dit ne pas vouloir commenter le dossier pour le moment. C'était « Appel à transformer la clinique médicale Angus en coop », un texte de Florence Morin-Martel paru le 17 février 2025 dans Le Devoir.
Au Planétarium de Montréal, Hubert Reeves brille dans l'azur. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 25 février 2025 dans Le Devoir. Au Planétarium de Montréal, le directeur de l'établissement, l'astrophysicien Olivier Hernandez, regarde avec une grande satisfaction s'ouvrir l'exposition temporaire consacré à Hubert Reeves, le célèbre vulgarisateur scientifique, décédé en 2023 à Paris. Elle sera plantée dans le hall d'entrée pour les deux prochaines années et on pourra la visiter gratuitement. Je lui dois tout à Hubert Reeves, lance tout de go Olivier Hernandez. Quand j'avais 12 ans, on m'a offert un télescope et « Patience dans l'azur », un des livres d'Hubert Reeves. Ça a changé ma vie. « Patience dans l'azur », le titre d'un des livres les plus célèbres de l'astrophysicien, né en 1932, est inspiré d'un poème de Paul Valéry. Au temps où Hubert Reeves fréquentait le collège Brébeuf à Montréal, cet écrivain à la facture classique était l'une des étoiles du ciel intellectuel des étudiants. Comme tous ces jeunes pétris par les jésuites, il lui était répété qu'ils appartenaient à l'élite catholique de sa société. Sans surprise, le jeune Reeves croit en Dieu, mais à sa manière. On parle de lui à l'époque comme de l'instigateur de l'underground catholique au collège. Par la suite, il a mis à distance ce rapport aux religieux, explique son fils Benoît Reeves. Et qu'est-ce qui était pour lui à l'origine du monde? Il considérait, sans pouvoir le prouver bien entendu, que c'est la matière elle-même qui a tendance à s'organiser. Il m'a enseigné que l'origine du monde, c'était le Big Bang. Reste que chaque scientifique possède en lui une composante mystique. Et comme le disaient certains de ses amis, Hubert passait son temps à mettre Dieu à la porte, tandis que celui-ci revenait par la fenêtre. Dans l'un des extraits sonores présentés dans cette exposition, la voix calme d'Hubert Reeves explique à quel point il travaillait ses livres, souvent durant des années, afin de rendre compréhensibles au plus grand nombre des questions complexes. Son écriture, dit-il avec modestie, profite des conseils de plusieurs de ses amis. Quel monde! Ici, un extrait de baptême. Là, des photos d'enfance. À 14 ans, il fabrique un télescope. L'un de ses aïeux avait permis à sa fratrie de se trouver à l'abri. Ulrich Beaupré, le père de la mère d'Hubert, a inventé une chaudière pour le chauffage. Cette invention l'a rendu riche, très riche, explique Benoît Reeves. La famille Reeves va posséder toute une rue dans l'ouest de Montréal. L'avenue Old Orchard, c'était à eux, au complet. La famille était aisée. Lors de la crise, ils ont conservé seulement deux maisons sur cette rue. Puis, ils se sont installés ailleurs. Mort en 1948, le grand-père d'Hubert Reeves, Charles Aimé, est pour sa part un architecte à qui l'on doit quantité d'édifices publics. Le marché Jean Talon, c'est lui. tout comme l'immense église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, dans le quartier Hochelaga, sans parler de diverses écoles et institutions. Cependant, la chimie n'opère pas du tout entre Hubert Reeves et son père. Hubert m'en a parlé souvent. Il détestait son père. Il avait beaucoup de ressentiment à son égard. Sur les photos où on les voit tous les deux, Hubert se place toujours loin. S'il a choisi de devenir astrophysicien, c'est en partie pour mettre plus de distance encore entre lui et son père. Son départ en Europe en 1964 fut vécu par Hubert Reeves comme une sorte de libération, une mise à distance salutaire face à ce père. La France le libérait de ce poids qui a beaucoup pesé sur lui, rapporte son fils. Les rapports entre le scientifique et sa mère apparaissent d'un tout autre ordre. C'était son préféré, témoigne Benoît Reeves. En 1952, depuis Burnt Creek, au Dakota du Sud, Hubert Reeves écrit une longue lettre à sa mère. L'original est présenté sous verre. Il lui parle de ses sorties à bord d'une Jeep tout-terrain en évoquant sa forte passion pour la musique. Cette nuit, après les fantastiques agapes de minuit, nous avons écouté Radio Paris, un quatuor de Beethoven. L'exposition présente plus loin une carte postale adressée à sa mère, des années plus tard, lors du passage de la comète de Halley. C'était en 1986. Il écrit ceci. « Chère maman, la comète n'est pas ce qu'elle était en 1910. Après 15 jours de voyage en Amazonie, nous l'avons trouvée minuscule à Sao Paulo. » Après avoir enseigné à l'Université de Montréal et travaillé aux États-Unis, Hubert Reeves travaillera en Belgique, puis en France. Il y a refait sa vie. On a beaucoup parlé du vulgarisateur scientifique, mais on oublie ses travaux. À 31 ans, il a été, par exemple, le premier à réaliser le spectre des neutrinos solaires, rappelle son fils. La musique des étoiles. Au fil des vitrines apparaît la forte passion d'Hubert Reeves pour la musique. Elle était pour lui une sorte d'église, de temple, qui n'était pas sans rappeler l'univers lui-même, explique son fils. Petit, il aurait voulu être violoncelliste ou chef d'orchestre. Il a appris le piano. Mais quand est venu le temps de passer à autre chose que des partitions de musique militaire, à Bach, par exemple, son père le lui a fait abandonner parce qu'il ne voulait pas acheter des partitions. Benoît Reeves a partagé avec son illustre père cette vive passion pour la musique. En même temps, la musique m'a servi de protection contre sa célébrité écrasante. Il était très célèbre, vous savez. À la fin de sa longue carrière, Hubert Reeves a prononcé des conférences sur Mozart et les étoiles. Il affirmait que l'univers est en quelque sorte comme la musique, qu'il improvise. Il s'est mis à diriger des orchestres. Ce n'était pas génial, disons, mais il y arrivait. C'est un bonheur qu'il s'est fait. Puis, il a servi de narrateur pour Pierre et le loup, pour Le carnaval des animaux, pour Babar. La déroute de l'espace. Que pensait Hubert Reeves de la commercialisation de l'espace? Il avait parfaitement conscience du bordel qui se mettait en place avec les Starlink et tout ça. Nous savions, avec l'apparition des satellites d'Elon Musk, la pollution lumineuse qui se mettait en place. On voit bien désormais le mépris total que Musk a pour l'environnement. Et on peut très bien imaginer ce que mon père en penserait. L'espace l'intéressait, mais pas avec Musk. Malicorne, le domaine champêtre d'Hubert Reeves, situé au sud de Paris, son fils Benoît souhaiterait le rendre accessible un jour prochain au public. Dès qu'il y avait un moment, Hubert partait acheter des graines. Il plantait des arbres. Il y a quelques grands séquoias. C'est un patrimoine que je souhaiterais contribuer à préserver. Je demeure fascinée par l'humaniste qu'il a été. Non pas parce qu'il était mon père, mais bien parce que, à l'heure de la guerre, de l'argent, de Trump et de Musk, cet humanisme profond nous manque beaucoup. Il était tellement bienveillant. On le sentait. Oui, cela nous manque. Hubert Reeves, Entre les lignes, au Planétarium de Montréal, jusqu'au 23 février 2027. C'était, au Planétarium de Montréal, Hubert Reeves brille dans l'azur. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 25 février 2025 dans Le Devoir.
Laissez la jeunesse autochtone se raconter, un texte de Mathias Marchal, paru le 2 février 2025 dans Espace autochtone. Dans son dernier documentaire, Ninan Awassat, Nous les enfants, la cinéaste Kim Obomsawin signe une œuvre intimiste et optimiste, sans être complaisante, sur la jeunesse autochtone de 3 communautés, Atikamekw, Iyukri et Innu. Durant 6 années, cette cinéaste Abénakis a posé sa caméra à Wapmagoustwi, chez la petite légende, à Manawan avec Matapiou et ses 2 inséparables comparses, ainsi qu'à Pessamit, où vivent Alissa et ses amis. Caméra placée à hauteur d'enfant, Kim Obomsawin les a écoutés lui raconter non seulement leur quotidien, mais aussi leurs rêves et leurs difficultés. Dans ce documentaire, on ne voit presque aucun adulte, et même la réalisatrice s'efface, puisqu'aucune narration ne vient mettre en relief les propos des jeunes. L'idée, c'est de laisser tout l'espace à cette jeunesse qu'on consulte peu et dont on parle souvent en son nom. C'est une jeunesse qui rêve, qui a des ambitions, qui est très forte, dit Kim Obomsawin, réalisatrice, scénariste et productrice. Au bout du fil, elle précise que son documentaire se veut un contrepoids au message ambiant qui résume trop souvent la jeunesse autochtone comme ayant des problèmes de consommation ou des difficultés à terminer son parcours scolaire. Oui, ce genre de problématique existe. Mais moi, je vois des jeunes vivants qu'il ne faut pas laisser tomber, que ce soit du côté parental ou gouvernemental, souligne Kim Obomsawin. Ce cri du cœur, la jeune Monique le lance elle aussi le long de la plage de Pessamit avec son bébé naissant dans sa poussette, en confiant à la réalisatrice qu'elle a été exposée trop jeune à certaines réalités difficiles. Tout le monde sait ce qui s'est passé avant. Les pensionnats pour autochtones et toutes ces blessures-là se sont transmises de génération en génération. Moi, ma mère ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Mais j'ai compris pourquoi. Et aujourd'hui, je le dis sans cesse à mon fils que je l'aime, que je vais tout le temps être près de lui. Je souhaite juste que l'amour se répande dans nos communautés. C'est tout ce que je souhaite, ajoute la jeune Innu, dont les propos résument bien le message que souhaitait livrer la réalisatrice dans ce film produit avec l'ONF. Justement, que sont devenus ces jeunes depuis le tournage qui s'est terminé en 2023? Les trois copains de Manawan sont tous rendus à l'université et suivent toujours les parcours annoncés alors qu'ils n'avaient que 12 ans, à savoir devenir oncologue, avocat et architecte. La petite légende est désormais une ado de 13 ans qui a pu retourner vivre dans sa communauté nordique, ses traitements médicaux à Montréal ayant porté fruit. Un film sur l'autisme à venir. Quant aux jeunes filles de Pessamit, elles sont désormais des mères de famille qui assument leurs responsabilités. Monique est même parvenue, malgré l'arrivée d'une deuxième enfant, à terminer sa formation et travaille désormais au sein de l'administration de sa communauté. Ces belles histoires faites d'entraide et de résilience méritaient d'être racontées et seront bientôt présentées dans un cinéma près de chez vous, notamment à Montréal, Cinémathèque et Cinéma du Musée, ainsi qu'au festival Ciné 7 à Sept-Îles. Il sera aussi diffusé sur Radio-Canada le 29 mars et sur le site Internet de l'ONF au printemps. Kim Obomsawin, elle, s'attelle à son prochain projet cinématographique, filmer la relation entre un père et son fils autiste, afin de faire valoir la perspective autochtone sur l'autisme, qui n'est pas forcément vue comme une fatalité. Du temps de nos aînés, ces enfants étaient vus comme ayant une relation plus proche avec le monde des esprits, et qu'il était donc important de les écouter, explique la réalisatrice Abenakis. La relève d'Alanis Obomsawin est assurée. C'était « Laisser la jeunesse autochtone se raconter », un texte de Mathias Marshall, paru le 2 février 2025 dans Espace autochtone.
Quitter Netflix et compagnie pour s'opposer à Trump. Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 4 février 2025 dans Le Devoir. Pour riposter aux menaces tarifaires de Donald Trump, Diane Charest a décidé de laisser tomber un produit américain qu'elle utilisait quotidiennement, Netflix. Et elle n'est pas la seule à annuler son abonnement à un service de diffusion en continu qui provient de nos voisins du Sud en guise de boycottage à la suite des décisions du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Je me dis qu'on est très impuissants, nous les individus, mais il faut se tenir debout, il faut faire de quoi. Alors, c'est ce que je fais, j'achète local et je me désabonne. Je ne peux pas faire autre chose, raconte Diane Charest au bout du fil. La solution de rechange à Netflix? Le bon vieux câble, lance Mme Charest. C'est sûr qu'on va se priver un peu, mais ce n'est pas grave, exprime-t-elle. Il y a plein d'autres options, Netflix n'est pas nécessaire. On est avec Vidéotron, il y a aussi des films. Un optimisme partagé par Alain Bousquet, qui voit la décision de sa conjointe d'abandonner leur abonnement à Netflix et à Amazon Prime Video pour revenir exclusivement aux services d'origine canadienne Crave et CBC Gem d'un bon œil. Moi, je n'écoute pas tellement ça. Ce n'est pas mon affaire. Mais elle, elle est très très forte là-dessus, admet-il d'emblée. Mais en fait, le fait qu'elle aille dans cette direction-là, j'ai l'impression que moi, ça va m'intéresser plus de la rejoindre pour écouter quelque chose en sachant que c'est canadien, note-t-il. C'est une opportunité, culturellement, de découvrir des choses d'ici. Dire au revoir aux productions américaines. Arnaud Bousquet, lui, voit l'abandon de Netflix en faveur de Crave et ici tout.tv comme une détox. Je pense qu'il faut avoir une attitude générale dans laquelle on va peut-être moins consommer de la culture américaine, indique-t-il. De toute façon, j'avais déjà trop de plateformes à mon goût, ajoute ce dernier à la blague. Preuve à l'appui. s'est auto-proclamé amoureux des États-Unis, boycotte Netflix uniquement parce que c'est une entreprise américaine. Il n'y a peut-être pas de la part des dirigeants de Netflix un soutien à Trump aussi assidu que celui de Mark Zuckerberg, de Sam Altman ou de Jeff Bezos, note-t-il. Tout de même, M. Bousquet aime particulièrement Crave, l'offre de diffusion vidéo de Bell, car la plateforme marie équitablement une bonne quantité de contenu québécois à des productions américaines de qualité. Pour Hugo Lacroix, même si d'autres options existent, comme la plateforme en ligne de Télé-Québec, c'est surtout l'accessibilité au contenu pour ses enfants qui représente la plus grande perte avec l'abandon de Netflix et de Disney+. Malgré cela, il ne pense pas y retourner, même si ça change aux États-Unis. La croix mise sur les plateformes américaines n'est pas nécessairement permanente, mais l'effacer va dépendre de l'évolution de la situation qu'il admet voir avec un certain pessimisme. Un boycottage provisoire. Pour les autres personnes contactées par Le Devoir, le consensus semble être d'arrêter le boycottage une fois que sera arrivée la fin du mandat de Donald Trump. Par courriel, ici tout.tv indique ne pas pouvoir se prononcer sur les impacts du mouvement de boycottage car la situation évolue rapidement. Sans mentionner de changement de stratégie marketing pour amener les rescapés des services originaires du sud de la frontière à s'abonner au forfait payant ici tout.tv extra, le service de diffusion en ligne de Radio-Canada affirme avoir déjà planifié de mettre de l'avant son offre d'information dans le contexte sociopolitique actuel ici et dans le monde. Dès cette semaine, tous les contenus d'information déjà disponibles sur ici tout.tv seront regroupés dans une section info, ajoute-t-on. Dans une déclaration écrite transmise par courriel, Crave attribue notamment son succès à la mise en œuvre de productions originales modernes et novatrices d'ici. L'entreprise Vidéotron, qui détient le service de diffusion en ligne Illico Plus, a pour sa part indiqué, par courriel, être fière de mettre cette plateforme d'ici à la disposition de tous les amateurs de divertissement francophones. C'était « Quitter Netflix et compagnie pour s'opposer à Trump », un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 4 février 2025 dans Le Devoir.